RMC.
Très très dur à comprendre pour les femmes, le hors-jeu.
Il faut que je vous explique. Si vous courez et que vous passez avant que le ballon soit parti, si un de vos copains, là vous êtes en position de hors-jeu.
Vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
En tous les cas, pour les femmes comme pour les hommes, quand vous êtes tout seul, vous êtes pas bien. C'est clair.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Nous sommes ensemble pendant une heure, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Vous venez de vivre sur RMC l'avant-dernière journée de Ligue 1. Je vous redonne les résultats. Le PSG, déjà champion, s'est imposé 4-0 face à Dijon. Lille s'est imposé largement 5-0 face à Angers. Lille terminera deuxième de Ligue 1. Lyon terminera troisième de Ligue 1 à l'issue de cette saison également. Lyon qui s'est imposé 4-0 face à Caen. Saint-Etienne terminera quatrième de Ligue 1. Saint-Etienne qui s'est imposé 3-0 face à Nice. Et puis derrière, Montpellier a fait match nul un partout face à Nantes. Marseille est allé arracher une victoire 5-2 à Toulouse. Il n'y aura pas d'Europe pour Marseille la saison prochaine, ça vous le saviez également. Nîmes qui a fait match nul 2-2 à Guingamp. On a également Bordeaux qui s'est incliné à domicile 1-0 face à Reims. Là, qu'est-ce que j'ai pas donné ? Monaco, match très important pour le maintien, qui s'est imposé 2-0 face à Amiens. Monaco qui n'est pas mathématiquement sauvé, ça se jouera lors de la dernière journée. Ils sont bien partis quand même, les Monégasques, notamment grâce à la défaite de Caen. Ils ont une meilleure différence de but. Match qui ne comptait pour rien, si ce n'est pour l'honneur, pour les droits télé également. Rennes est allé s'imposer 2-0 face à Strasbourg. La coupe des vainqueurs de coupe finalement. Les deux vainqueurs de coupe, voilà. Petite idée de Jérôme Thomas, plutôt pas mal pour cette affiche dans laquelle il n'y avait pas d'enjeu. Voilà pour ce qui est de ces affiches de Ligue 1. Avec nous ce soir dans l'after, il n'a pas perdu son derby face à Créteil, lui joueur de Lusitanos de Saint-Maur. Bonsoir Kevin Diaz.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Lusitanos, Saint-Maur, invaincu face à Créteil dans son histoire.
Ouais, on peut le dire, on peut le dire.
Incroyable ça.
C'est beau.
Un partout donc.
Un partout.
Bon, la montée était déjà assurée pour Créteil, je crois.
Ouais, on est deuxième.
Pas mal, non? Bon, c'est pas mal, c'est un peu frustrant finalement.
Non, c'est pas frustrant. Une belle fin de saison, une belle deuxième partie de saison.
Vous avez mis les ingrédients, tout ça?
On a tout.
Le groupe vit bien?
Ouais, l'important, c'est le point du match nul, à l'extérieur.
Jonathan Macardy également est avec nous. Bonsoir, Jonathan.
Salut, les gars.
Ça va?
Ouais, nickel. Super soirée. Passé une super soirée.
C'est vrai qu'il était sympa,
c'était génial.
Ça a démarré très fort.
Il y a Raphaël Dos Anjos, Kevin Lee sur RMC Sport 4 ce soir. Donc, on est
rentré. J'avais complètement oublié. Vous l'avez très certainement suivi avec nous également, la victoire de Lyon en finale de la Ligue des Champions féminines. Victoire 4-1 face au Barça. Sixième titre pour l'OL. Quatrième titre de suite également pour les joueuses de l'Olympique Lyonnais. Finale de la Cup en Angleterre également. Là aussi, il y a eu Piquet. Manchester City s'est imposé en finale 6-0 face à Watford.
Magnifique.
Premier triplé de l'histoire du foot anglais. Jamais une équipe n'avait gagné le championnat, la Cup et la League Cup sur une même saison. C'est fait cette saison par le Manchester City de Pep Guardiola. Dernière journée de Liga également. Alors sachez que bon, le Barça, l'Atlético et le Real, on le savait, aller en Ligue des Champions. C'est Valence qui les accompagnera. Voilà, ça c'est l'enseignement de cette journée. En Allemagne, le Bayern est champion. Le Bayern qui s'imposait 5-1 face à l'Eintracht. Dans le même temps, Dortmund s'est imposé 2-0 face à Gladbach. On reviendra notamment sur le 9e titre de Ribéry en Bundesliga. C'est un record dans l'histoire du football allemand. Il a marqué, oui. Robben aussi, qui est rentré en jeu, il a marqué également.
Dernière, c'est beau.
Et puis au Portugal également, on connaît le champion. Vous l'avez suivi sur RMC Sport peut-être. Le Benfica s'est imposé 4-1 face à Santa Clara. Classico de fou entre Porto et le Sporting. Porto qui était mené 1-0 à 11 contre 10 s'est imposé finalement 2-1. Mais il fallait que le Benfica perde et le Benfica s'est imposé. Et petite histoire également, le président du Benfica, Luis Silveira, à la fin du match, s'est pointé dans le vestiaire. Il était filmé. Il a dit les gars, on double la prime de victoire, la prime de champion.
Magnifique.
4 millions d'euros pour le groupe au lieu de 2 millions.
Est-ce que c'était le dernier match de Conte Sao avec Porto?
C'est assez tendu, on va dire, voilà. Il pourrait partir. Il pourrait partir. C'est pas fait, mais il pourrait partir.
Okay. Non, mais c'est intéressant pour, vu que.
C'est jamais avec Sergio Conceição, comment ça se passe.
Il y a des clubs en France qui cherchent un entraîneur.
Il y en a qui cherchent un entraîneur. Il y en a qui ont déjà trouvé, même d'ailleurs.
Ouais. C'est clair.
On débute cet after, pas le plus important, le plus important.
C'est les trois points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Tu m'as l'air chaud, tiens.
Oui. Bah, alors, le premier point, le gros résultat, la bonne opération du soir, c'est Monaco, hein. Monaco qui gagne 2-0 dans un match où ils se sont un petit peu fait dessus. C'était pas très beau, ils ont pas maîtrisé grand chose, mais le plus important, c'est d'avoir pris les fameux 3 points. Ils sont en position favorable pour sauver une saison qui est catastrophique. Le deuxième point, bon bah, c'est cette lutte pour le maintien, comme tu l'as très bien présenté en préambule, qui va être hyper intéressante. Entre Dijon, Amiens et Caen, qui reçoivent, des équipes qui sont, voilà, qui jouent plus grand chose, savoir Toulouse, Guingamp, Bordeaux. Ça va être hyper intéressant parce que quand tu regardes les différences de buts, notamment de celles de Caen et d'Amiens, Caen est à moins 24, Amiens à moins 22, donc on va avoir du suspense jusqu'au bout pour notre 38e journée de Ligue 1. Et troisième point, C'est Hiroki, quel superstar, putain! Le but qu'il met!
Il avait plus parti qu'un.
Ouais, mais à chaque fois qu'il met des buts, c'est beau. Alors, le but, là, il y a un an, c'était contre, en Coupe d'Europe, on s'en rappelle tous. Et là, mais cette volée magnifique! Et le centre, en plus, qu'il enchaîne après sur le but, qui suit. Non, mais vraiment, Hiroki Sakai, chapeau, mon grand, tu nous représentes bien.
Avant d'avoir tes trois points, juste vous dire également que demain on aura un after de 3 heures, hein, de 21h à minuit. On viendra notamment sur le titre du Bayern en Allemagne, le titre du Benfica au Portugal avec Alex de Castro également. On fera un gros after. On viendra aussi sur le triplé de Manchester City avec Julien Laurence. Tes trois points ce soir, Kevin.
Moi, mes trois points, je vais commencer bien sûr par Monaco. Je vais pas en dire beaucoup parce que Jonathan l'a déjà très bien décrit. Mais quand même, Monaco, que c'est dur. Parce que encore ce soir, c'était un match compliqué. Deuxième point, c'est le multiplex de cette Ligue 1 qui nous rappelle à nos plus belles heures de jeunesse et vraiment
avec la radio cachée sous l'oreiller.
Super super multiplex. On se plaint souvent du spectacle en Ligue 1, mais ce soir on a vu des buts, on a vu vers l'avant. Il y a dès les premières minutes d'ailleurs et franchement c'était très agréable. Et derrière, mon troisième point, donc je dois dire que je suis assez fier. Lyon, c'est le Brésil. Parce que ce soir, c'est vrai qu'ils ont fait honneur à leur futur directeur sportif et à leur futur entraîneur. Voilà, on se rend compte quand même que dans cette équipe, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité.
Ouais. T'as vu le positionnement de Depay, c'était pas mal. Il était bon. Et puis moi, j'ai bien aimé la manière dont il a été utilisé ce soir en particulier, quoi.
Ouais, il a été bon aussi. Ouais,
mais c'est le positionnement.
Ah ouais, victoire 4-0 hein, du coup hein, de l'OL face à Caen. Alors on va suivre les festivités du côté du Parc des Princes avec Morgan Mori dans quelques instants. Les joueurs qui vont recevoir l'Hexagone, qui vont recevoir leur médaille également, ils vont y aller par petits groupes. Hein, d'ailleurs, les joueurs du Paris Saint-Germain. On va débuter par Lille, tiens, Lille qui a assuré de terminer deuxième, Lille qui a fait sensation également, grosse victoire du LOSC, un 5-0 face à Angers, et on va suivre également les festivités du côté du stade Pierre-Mauroy également avec Jean Baumel. Je sais pas s'il est là d'ailleurs, Gibo, il sera avec nous dans quelques instants, Jean Baumel. Il est là, Gibo.
Je suis là.
Alors ça y est, la fête a commencé ou pas alors à Lille?
Bah écoute, pas l'aspect pyrotechnique, hein. Bonsoir d'ailleurs à Jonathan et Kevin.
Salut Gibo.
Avec, ils ont fait surtout le tour, hein, le tour d'honneur traditionnel, grosse ambiance avec les DVE, Pépé forcément fortement fêté avec les DVE, avec ses copains Bamba et Ikoné. Ouais. Franchement, voilà, c'est un petit peu un adieu pour l'international ivoirien, auteur de 20 débuts, 12 passes décisives, enfin vraiment énorme. Et puis une haie d'honneur pour la speakerine du LOSC dont on parlait en préambule, hein, 30 années d'animation avec le LOSC de Grimont-Préjoris en 89. D'ailleurs, Christophe Galtier était joueur à l'époque. Hein, au LOSC. Ah ouais. Et il va la saluer d'ailleurs actuellement pour lui souhaiter voilà une bonne suite. Et Nicolas Pépé voilà qui reçoit bien sûr le trophée de Doc de l'année, hein, y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, il y aura pas mal d'émotions et puis surtout ils ont fêté la validation officielle de cette Ligue des Champions parce que bon, on savait que c'était fait.
La validation.
Non, le problème c'est qu'on a un écho donc j'entends pas bien ce que je dis. Et ça continue malheureusement. Et voilà, donc vraiment très belle saison et un c'est public clair. Qui communie avec son équipe. On est vraiment loin de ce qui s'est passé la saison dernière.
Hein. C'est vrai. Tiens, on va accueillir Vincent, tiens, qui est supporter du LOSC et qui nous a appelé au 32-16 et qui était au stade d'ailleurs ce soir. Salut Vincent. T'es là Vincent? Ah bah non, Vincent il passe pas, ça passe pas apparemment. Ça fonctionne pas, je vous écoute les gars.
Bah non mais moi écoute, y a rien à dire, Gibo a déjà tout dit sur la saison, elle est extraordinaire. Surtout quand tu te mets à la fin de la saison dernière ou à l'intersaison, tu t'aurais dit Lille va passer de cette saison galère à une qualification directe en Ligue des Champions, personne n'y aurait cru. Mais ce que je veux souligner ce soir, c'est que surtout l'état d'esprit que Christophe Galtier a réussi à insuffler dans cette équipe, c'est que là on est en fin de championnat, les mecs ils sont toujours à fond quoi au final. Ils jouent comme, ils se jettent comme des morts de faim sur chaque ballon, ils ont envie de faire honneur à ce maillot, faire plaisir à leur public, et il y a un super état d'esprit dans cette équipe et c'est très très bien qu'elle soit récompensée par cette qualification en Ligue des Champions.
Kevin.
Ouais, c'est vrai que vraiment félicitations à Galtier et à ses joueurs parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup de plaisir avec un jeu vers l'avant. Alors certes, pas forcément un jeu de possession, mais un jeu de transition très rapide, un peu à l'image de ce qu'on voit hein, maintenant dans le football moderne. Et Galtier, il a vraiment su, et on l'a vu hein, dans son discours d'après-match la semaine dernière, il a vraiment su insuffler un état d'esprit avec cette équipe. Il a permis à ses joueurs de progresser, d'atteindre pour certains le très haut niveau. Et en tout cas, on leur souhaite de continuer comme ça la saison prochaine.
Et le plus dur commence maintenant.
Ouais.
Intersaison avec voilà.
Vincent est là cette fois-ci. T'es là, Vincent?
Ouais, vous m'entendez?
Ah bah voilà, là, on t'entend, mon Vincent.
Bonsoir, messieurs. Vous allez bien?
Bonsoir. Et toi alors?
Bah écoute, pour faire court, c'est vrai que j'ai un peu eu de mal à suivre cette saison parce que j'ai du mal à faire abstraction qu'il y a quand même pas oublié qu'il y a un homme d'affaires qui est arrivé en bafouant quelque peu les valeurs du club. Maintenant, quand je vois cette joie qu'il y a pu y avoir aujourd'hui, la saison. La saison, le jeu qui a été proposé, l'état d'esprit, c'est vrai que c'est impressionnant et j'ai pas vu une ambiance comme ça au Grand Stade. Je pense que c'est la plus grosse ambiance au Grand Stade que j'ai vue depuis la création du stade. Quoi.
Est-ce que t'es inquiet toi aussi pour la saison prochaine parce qu'il devrait y avoir des départs importants également cet été du côté du LOSC?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le projet, c'est quoi? C'est un enrichissement personnel de Gérard Lopez sur le club. Donc, bien sûr que je suis inquiet parce que je connais pas du tout ce projet. Maintenant, j'imagine que tout est déjà prévu parce que ce projet ne pourrait pas réussir sans Campos et je pense que Campos a déjà prévu les joueurs qui vont venir. C'est incroyable.
Je peux te dire, Vincent, que Campos est déjà au travail. Il est déjà au travail. Je peux te dire, Vincent, que Campos est déjà au travail dessus. J'ai des amis en Amérique latine qui ont vu beaucoup de scouts lillois sur les différents championnats locaux.
Bah, lui, d'ailleurs, il est déjà en train de voyager un peu partout. Ouais.
Je pense que Pépé avait un bon de sortie déjà. Il y a plusieurs joueurs qui avaient un bon de sortie. Et le projet de trading pour d'enrichissement personnel de Lopez repose que sur la qualité de Campos.
Tu l'avais entendu quand on l'avait eu la semaine dernière, Vincent? Il y a deux semaines.
Campos?
Non, Gérard Lopez.
Bah, j'évite parce que ça m'agace profondément. Et j'ai
alors, ce qu'il nous avait dit, parce que pour
traduire, faut écouter aussi.
Non, mais ce qu'il avait dit, et ça me semblait, nous aussi, on avait quelques craintes sur le fait que le LOSC soit pillé de sa moelle substantielle pour la saison prochaine. C'est que bon, Pépé, à mon avis, tu peux lui dire adieu. C'est voilà, il va avoir une très belle offre, il va partir. À mon avis, un des milieux de terrain risque de partir aussi. Thiago Mendes,
c'est sûr.
Voilà. Mais après, il avait quand même l'air de dire que son souhait c'était de renforcer l'équipe qualitativement et quantitativement. Alors, est-ce que trouver quelqu'un joueur de la qualité de Nicolas Pépé, ça va être très compliqué. Mais quand même, quand t'as un directeur sportif qui a les réseaux et le flair de Campos, tu peux dire que, voilà, avec le discours plus Campos, attendons de voir avant d'être inquiet.
Ouais, et puis Vincent, j'ai bien compris que, bon, t'es pas forcément fan du projet de ton président, mais je pense qu'il faut pas que tu te fasses de soucis parce que c'est quand même quelqu'un qui est là pour pérenniser ce club. Il a fait une première saison très très difficile pour pas dire plus. La deuxième, elle est exceptionnelle. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot. On peut passer du chaud au froid en une saison. Et donc je pense que lui, il veut vraiment pérenniser le club sur 2-3 saisons. Parce que même si tu dis ou tu penses qu'il est sur un projet un peu plus personnel, il sait aussi que de toute façon, dans le football, il n'y a pas de secret. Il faut bien travailler sur le long terme.
Gibo, tu réponds quoi toi, Vincent? Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte. Il y a aussi le traumatisme de la saison dernière qui est toujours là.
Bien sûr. Mais c'est mal parti. Bon, c'est tout. L'association Campos Bielsa, c'est impossible. Voilà. Par contre, leur projet, ils ont perdu du temps la saison dernière. Ils l'ont vite rattrapé. Et surtout, il l'a dit la semaine dernière à l'issue du match contre Bordeaux. Ils veulent pas faire de la figuration Ligue des Champions. Et si, même les supporters qui sont un peu mécontents, Gérard Lopez veut faire de l'argent. Mais s'il veut faire de l'argent, Gérard Lopez, il a intérêt que le LOSC cartonne.
Et oui, bien sûr. Et il a intérêt à ce que le LOSC cartonne en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, voilà, c'est le miroir grossissant du supermarché pour vendre des joueurs beaucoup plus chers.
Et il le sait. Prendre l'exemple de Monaco où par moment, du trading, faut pas en faire trop. Et là, cette année, c'est 3-4 joueurs, hein. Thiago Mendes, Pépé, après des joueurs qui jouent moins. Garrier qui est prêté à Nantes, bah, il est trop. 5 défenseurs centraux, t'en as pas besoin.
Un petit Sheka peut-être aussi.
Sheka, ouais,
il risque d'avoir des offres, non?
Il est important. Non, mais ils vont renforcer, ils vont même rajouter des joueurs par rapport à la Ligue des Champions, parce que.
Bien sûr.
Et puis, Djibo, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi, je dis souvent que le football, c'est un peu comme la Formule 1. Il faut que tous les réglages soient de façon optimale. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que l'organigramme du LOSC, il est bien défini et tout se passe pour le mieux dans le meilleur du monde, en tout cas dans le football, avec un directeur sportif fort qui est un énorme recruteur, avec un entraîneur qui a la main sur son équipe et sur son club, avec des supporters qui ont repris confiance et surtout avec de la qualité sur le terrain.
Alors je sais que t'as pas fait exprès, mais la comparaison entre la Formule 1,
elle est un peu hasardeuse quand tu parles
quand tu parles de Gérard Lopez.
C'est un signe un peu.
Du coup, Vincent, t'es encore plus flippé, c'est ça?
Ah bah c'est exactement ça, Gérard Lopez, faut pas oublier qu'il a planté Lotus. Mais juste un commentaire, c'est vrai que on peut parler de l'animation de jeu et la super saison, mais Lille a quand même été un peu, même beaucoup tributaire de l'efficacité de Pépé, parce que je vous l'avais déjà dit, mais depuis Eden Hazard, j'ai pas vu un joueur aussi surpuissant à Lille.
Ah, Ludovic Obraniak quand même, Vincent.
Ludovic Obraniak, toute ma vie je me rappellerai de lui, hein, parce que c'est lui qui nous a fait gagner la Coupe de France. Donc dites ce que vous voulez de Ludovic Obraniak, mais ça reste pas une légende ici. Mais un joueur qui met, je sais plus, 20 buts, 20 passes.
Non, c'est exceptionnel, Vincent. C'est exceptionnel.
À remplacer.
Merci, Vincent, d'avoir été avec nous.
Ils vont peut-être jouer. Merci à vous, à bientôt.
Ciao, Vincent.
Gibo?
Non, ils vont le remplacer, ça sera compliqué, mais je pense qu'ils vont peut-être jouer autrement.
Oui,
oui, certainement. Aussi. Tiens, c'est la fête à Lille, au stade Pierre Mauroy. C'est la fête au Parc des Princes également. Morgan Mori, le PSG s'est imposé 4-0 face à Dijon ce soir. Le PSG qui reçoit son hexagone, son trophée de champion.
Oui, le show pyrotechnique vient de se terminer au son d'ACDC Thunderstock, frappé par la foudre sur le podium en forme d'hexagone. Il y a Nasser Al Khelaifi et Nathalie Bois de la Tour. Et le premier appelé, c'est l'entraîneur Thomas Tuchel. Et je me demande, Nicolas, Jonathan, Kevin, si le préposé au cotillon n'a pas appuyé un peu trop tôt sur le bouton. Les machines à marron qui envoient la fumée, les cotillons,
ont balancé
les cotillons avant l'arrivée de Nasser Al Khelaifi et Nathalie Bois de la Tour. Donc avant qu'il y ait le moindre joueur sur le podium.
Morgan,
décidément,
Morgan, la saison elle est compliquée.
C'était comment l'accueil pour Tuchel, pour toi?
Là, il a été chaudement applaudi. Chaudement applaudi.
Donc, Jonathan?
Je sais pas, non, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de supporters parisiens qui, commencent à être un petit peu mitigés par rapport à la saison dans sa globalité. Maintenant, c'est l'heure de tirer des bilans. Et
Jonathan, il y a beaucoup de gens qu'il faut pour ce club, c'est de la stabilité, s'il vous plaît.
Je suis d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui commencent, qui ne sont pas non plus ultra positifs.
Alors Morgan, tu nous disais tout à l'heure que les joueurs vont être appelés par petits groupes. Mais on sait comment ils sont déterminés, ces groupes-là, d'ailleurs.
Les Brésiliens, les Uruguayens.
Non, Nicolas, pas d'information. Le speaker du Paris Saint-Germain, Michel Montana, qui appelle les joueurs sous la musique de Phil Collins pour entrer, le premier à entrer sur la pelouse. Ce sont les gardiens qui arrivent et l'effectif qui est juste derrière. Tout l'effectif du Paris Saint-Germain va monter en même temps sur le podium, de rester sur le rond central du Parc des Princes.
Les festivités au Parc des Princes, les festivités au stade Pierre Mauroy également, on vous le rappelle. Lille qui terminera deuxième de Ligue 1 à l'issue de cette saison. Lyon qui est assuré de terminer troisième. Saint-Etienne assuré de terminer quatrième. En gros, on connaît l'ordre des clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe. En revanche, pour le maintien, rien n'est fait encore. On revient, on continue d'analyser cette avant-dernière journée de Ligue 1 avec Kevin Diaz, avec Jonathan Macardy, avec vous au 32-16 sur l'application Direct Studio et sur le hashtag RMC Live, bien sûr. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Kevin Diaz et de Jonathan Macardy, avant-dernière journée de Ligue 1 que vous avez suivi avec nous sur RMC. Je vous rappelle les résultats: 2-2 entre Guingamp et Nîmes, victoire 2-0 de Rennes à Strasbourg, 2-0 pour Monaco face à Amiens, le PSG s'est imposé 4-0 face à Dijon, victoire 5-2 de Marseille à Toulouse, Bordeaux s'est incliné à domicile 1-0 face à Reims, 1 partout entre Montpellier et Nantes, Lyon s'est imposé 4-0 face à Caen, Lille a cartonné 5-0 face à Angers, victoire 3-0 de Saint-Etienne face à Nice. Morgan Mori est au Parc des Princes. Les joueurs du Paris Saint-Germain reçoivent leur trophée de champion, Morgan.
Oui, ça a été très modeste dans la durée, en tout cas, et dans l'explosion de joie du côté des Parisiens, avec Thiago Silva qui a soulevé le trophée hexagone, avec à ses côtés Thomas Tuchel. Et là, tout le monde est en train de quitter le podium pour aller faire un tour d'honneur. On voit un Real Di Maria qui a pris autour de la taille un drapeau argentin. Les joueurs parisiens en ordre dispersé qui vont aller faire le tour de toutes les tribunes du Parc des Princes. Neymar est là, il était à côté de Kylian Mbappé au moment de monter sur le podium. Ils étaient en train de blaguer tous les deux et on quitte le podium au son de Nirvana. Il y a d'autres cotillons qui sont déployés, mais je maintiens ce que j'ai dit, le préposé au cotillon, il a tremblé, trop de stress, il a appuyé trop tôt sur les cotillons qui devaient sortir au moment où Thiago Silva soulevait le trophée. C'est Thiago Silva qui a le trophée dans les mains, il se dirige vers le virage Auteuil et les rayons laser sont aussi de sortie et les fumigènes sont allumés également dans le virage Auteuil.
Et alors Morgan, on a checké nous des images qu'on a, les retours antennes. Adrien Rabiot était attendu. Nous, on l'a pas vu sur les images.
Moi non plus. Pas vu Adrien Rabiot qui a préféré rester modeste par rapport à la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain et les Parisiens qui ont pris leurs enfants, son parent, dans les bras et ils se dirigent tous vers le virage Auteuil.
Merci beaucoup, Morgan. Le PSG, qui a célébré cette remise de trophée face à son public avec cette victoire, face à Dijon. Quelque chose à rajouter sur le Paris Saint-Germain?
On a déjà tout dit, on aura tout le temps d'en débattre. C'est l'intersaison qui va être intéressante maintenant.
Un mot sur Lyon, sur Lyon. Lyon qui s'impose donc 4-0 face à Caen. Alors ils sont un peu fait peur, les Lyonnais, avec ce penalty arrêté par Brice Samba, ce penalty de Dembélé. Finalement, les Lyonnais assurent leur troisième place face à Caen. Caen, pour qui il y avait beaucoup d'enjeux également hein, ce soir. Un Caen qui joue son maintien aussi, qui est barragiste ce soir avec 33 points, 2 points de retard sur Amiens.
T'as tout dit, c'est pas anodin du tout cette défaite 4-0, parce que maintenant la différence de but, elle risque de peut-être compter avec Amiens. Amiens est à moins 22, Caen maintenant est à moins 24 avec cette défaite assez lourde. Donc voilà, après, on le savait plus ou moins que l'enjeu du maintien serait jusqu'à la dernière journée avec les trois équipes qui sont concernées, à savoir Dijon, Caen et Amiens, qui reçoivent trois équipes qui n'ont plus grand chose à jouer. Donc c'est là où vraiment ça va être intéressant. Après, pour être très bref sur Lyon, j'ai adoré le Lyon de ce soir, que j'aurais aimé voir peut-être plus souvent dans la saison. Cette organisation là avec Memphis Depay juste derrière, un vrai attaquant dans l'axe assez libre. Kevin pourra certainement mieux en parler, mais j'ai l'impression de voir le Memphis au niveau qu'il peut avoir avec la sélection.
Kevin.
Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup apprécié le match de Lyon dans les intentions, également un très bon Terrier, un bon Aouar au milieu de terrain. De toute façon,
bon Aouar, ouais.
je regardais la composition de cette équipe lyonnaise, à part, bon, sans leur manquer de respect, mais à part Morel et Marcelo dans cette défense centrale, même si on sait que Morel c'est un remplaçant en tout cas sur ce poste-là, vraiment il y a quand même beaucoup de qualités individuelles dans cette équipe lyonnaise. Il y a aussi un banc de touche avec des Bertrand Traoré, avec des joueurs qui peuvent rentrer, et donc
enfin peut y avoir des départs aussi hein, cet été. On parle notamment d'un départ possible de Mendy par exemple, le latéral gauche.
En tout cas, je pense
ça se remplace un latéral gauche.
Enfin, c'est dur hein, c'est
ouais,
des postes chiants quand même hein.
Non, moi je pense que c'est vraiment hein, si les Lyonnais veulent avoir de l'ambition, et je le dis, je le répète, pour moi cette équipe, elle, alors je veux pas dire qu'elle doit être championne devant le Paris Saint-Germain, mais elle n'a pas le droit de finir aussi loin du Paris Saint-Germain. Elle doit finir
mais
aller
aussi
à
loin
5
de Lille, finalement.
Oui, bien sûr de Lille, mais on parle du Paris Saint-Germain pour les titres de champion, parce que pour moi l'OL a un budget, a le stade, a les supporters, a l'organisation pour jouer le titre tous les ans, et c'est ce que j'espère qu'ils vont faire dès la saison prochaine, avec donc un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur brésilien. Et en tout cas ce soir vraiment c'était joga bonito.
Alors justement,
et attends, ils ont quand même Marsal hein, pour si jamais Mendy part, qui est un latéral gauche de formation.
Après, Marcel, c'est pas dit non plus qu'il reste. Hein. Il a pas eu un temps
mais
de jeu.
Mais il va falloir des recrues quand même à Lyon. Il va falloir, je pense, il y a un renouvellement à faire sur certains points.
Tu l'avais mis dans tes 3 points. Tu l'as mis dans tes 3 points également. Tu disais, j'ai hâte d'être à la saison prochaine avec cette touche brésilienne qui est également du côté de l'OL avec le duo Juninho-Silvinho. T'es déjà emballé, toi, par ça?
Moi, honnêtement, je suis emballé. Hein. Moi, j'ai entendu certains commentaires. Alors, chacun aura son avis, mais moi, clairement, je suis emballé. Pourquoi? On a réclamé du changement à Lyon. Bah là pour le coup voilà, c'est Bruno Genesio et Silvinho, je pense que ce soit au niveau des origines, c'est aux antipodes. Alors je connais pas forcément le style de jeu qui sera prôné par cet entraîneur.
Ah, il a jamais entraîné
mais en tout cas voilà, je pense que ça va être quelqu'un qui va faire jouer son équipe vers l'avant, qui va tenter d'avoir la maîtrise collective sur un match, et c'est ce qui a manqué clairement aux Lyonnais. On l'a vu hein, quand vous avez une équipe qui fait des gros résultats contre les gros mais qui perd des points contre les petits, c'est la maîtrise collective
après,
qui manque. Et bien sûr défensivement, il va falloir avoir un recrutement intéressant.
Personne ne peut savoir comment il va le faire jouer son équipe. Après, c'était l'adjoint de Tite. Donc on a peut-être une petite
indication sur
le style de jeu. Bravo Nico. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit hier, qui nous avait échappé, mais qui à mon sens est assez intéressante, c'est que donc il va avoir Juninho en directeur sportif, Silvinho en entraîneur, et c'est la cellule de recrutement, Florent Maurice, qui connaît très bien Silvinho. Ils ont joué.
Il y a Cassapa qui sera là aussi, qui connaît bien le club, qui parle la langue.
Mais Florent Maurice a joué avec Silvinho en fait. Ça nous avait totalement échappé au Celta Vigo.
Ouais.
Ils ont fait plusieurs années ensemble, et je pense que là t'as un changement de paradigme qui s'était opéré au niveau de l'Olympique Lyonnais. Alors avec l'arrivée du stade, on avait plus misé sur des jeunes, pas en post-formation mais presque.
Ouais.
Il y a eu l'ère des Bertrand Traoré, des Memphis Depay,
c'est nécessaire de toute façon,
des Fernand Mendy. Et là, le changement de paradigme est total avec en termes d'organisation, avec Jean-Michel Aulas qui petit à petit fait un pas en retrait, et il confie en quelque sorte le beau joujou qu'il a conçu au fil des années, et le confie à la figure de proue de ce projet-là, le mec qui a fait briller le projet une fois, à savoir Juninho. Donc je trouve ça vachement intéressant. Donc pour l'entraîneur, je comprends que ça puisse être un petit peu déceptif, parce qu'on nous a quand même annoncé un nom du coaching européen. Là, c'est un novice.
Non, c'est pas forcément décevant.
Il y a beaucoup de supporters qui sont déçus. Il faut le dire quand même.
Moi, je trouve.
Juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est l'organisation. Voilà, c'est l'organisation que ce club prend. On verra ce que donne l'entraîneur, mais la structure même de la cellule sportive, je la trouve hyper intéressante.
Kevin,
tu disais que il y a certains supporters qui peuvent être déçus. Moi, je trouve au contraire que c'est très frais On s'attendait pas du tout à ça, un entraîneur brésilien qui a jamais été en poste. Pour le coup, moi j'ai envie de dire bravo Jean-Michel Aulas, parce qu'il a réussi à nous surprendre. C'est on nous a parlé, on nous a parlé de pas mal de plats réchauffés, hein, sans manquer de respect aux entraîneurs qui ont été cités. Moi je trouve que quelqu'un qui arrive comme ça, alors attention, parce que je pense que rien ne lui sera laissé passer, mais en tout cas, moi je suis vraiment heureux pour ce club d'avoir comme ça de la fraîcheur et un entraîneur qui devra faire ses preuves.
Mais tu sais quoi, on vous lance un appel à un supporter de l'OL également au 32-16, appelez-nous, vraiment on est curieux de savoir comment vous avez réagi, comment vous accueillez cette nouvelle là. Ça y est, bon c'est pas encore officiel mais ça a été annoncé hier, c'est sorti hier, vous avez 24 heures pour peut-être cogiter un petit peu, vous renseigner, voir qui est ce Silvinho, déjà que Juninho vous connaissiez. On va demander l'avis tiens d'Amaury qui nous a appelé au 32-16 justement. Bonsoir Amaury.
Bonsoir Nico, bonsoir Kevin, bonsoir Jonathan.
Salut Amaury.
Alors je crois que toi t'es assez impatient finalement Amaury, hein.
Ah oui, t'es oui, comme moi. Parce que franchement je suis très content déjà du changement de fonctionnement de l'OL qui structure comme un grand club européen, enfin avec un vrai directeur sportif et pas avec un président qui intervient à tout va dans le travail du coach. Et ensuite, pour Silvinho, on va pas s'enflammer d'avance parce qu'on sait pas évidemment ce qu'il vaut en coach numéro 1, mais il a quand même été adjoint dans de certains coachs qui sont quand même de bons coachs.
Si, Clementini.
Donc on va quand même lui laisser le bénéfice du doute, et c'est que ça fait quand même du bien de changer enfin le système lyonnais, et surtout de Juninho qui, je pense, va amener ce qui manque beaucoup, surtout dans cet effectif de jeunes,
c'est
l'envie de la gagne et l'exigence, clair, parce que l'exigence, je trouve, est perdue un peu en ce moment.
Parce qu'au final, tu regardes les derniers entraîneurs lyonnais, c'était tous un petit peu le même profil. Tu vois,
ouais,
que ce soit Fournier, Rémi Garde, Bruno Genesio, c'était un petit peu le même profil d'entraîneur et surtout le même profil de personnalité. Là, c'est bien d'amener quelque chose.
Mais toi, tu sais quelle est la personnalité de Silvinho?
Bah, apparemment, c'est un mec qui est assez rigide. Allez, apparemment, c'est un mec qui est assez rigide, qui même peut-être qui aura beaucoup plus d'autorité. Mmh. Et je pense que quand je te disais le même profil, tu vois, Garde, etc., c'était vraiment des mecs du Serail, quoi, tu vois.
Après, la seule interrogation que j'ai, et c'est pas du tout négatif la façon dont je le dis, c'est Silvinho, il a 45 ans. Ça fait depuis quoi 2011 qu'il est adjoint.
Oui.
Mais être adjoint et être entraîneur principal, c'est pas du tout le même taf.
Juste Nico, il y a quand même quelque chose. Il est adjoint de la sélection du Brésil. Il est pas adjoint non plus
justement de Ligue 2. Il travaille pas avec des joueurs. Aussi, on peut voir les choses comme ça.
Mais si justement aujourd'hui,
Nico,
aujourd'hui, on le sait avec Gasset et Laurent Blanc, l'adjoint. Il est prépondérant.
Kevin, c'est pas du tout une exception.
Mourinho, tu crois que ses adjoints ils sont pas importants? Pourquoi il est trimballé partout? Que les adjoints de Guardiola, tu crois que Arteta il est pas important?
Tu parles Gasset et Blanc, tu parles d'un mec qui fout rien et un mec qui fait tout.
Mais non, là tu vas trop loin.
Mais Kevin, c'est pas là où je veux.
Je dis juste qu'aujourd'hui un adjoint, il a bouffé le travail.
Blanc Gasset, c'est pas significatif.
Blanc Gasset, c'est pas significatif.
On comprend rien. La seule chose que je veux dire par là, je parle pas moi de ses compétences technico-tactiques. Je te parle plus de l'aspect humain et managérial. C'est-à-dire que quand t'es adjoint, et ça, toi, tu l'as vécu dans un vestiaire, t'as pas les mêmes rapports avec les joueurs que lorsque t'es entraîneur principal, par exemple.
Et la pression médiatique, Nico, aussi.
Je vais te dire plein de choses, mais...
Il a une qualité qui, pour Lyon, sera prépondérante, très importante. Déjà, il s'entend bien avec Juninho.
Ouais.
Et ça, on l'a...
Et puis, c'est gagné aussi.
Voilà.
En tant que joueur, ne serait-ce qu'en tant que joueur.
Attends, on le voit à Marseille, on le voit à Paris, on le voit dans beaucoup de clubs. Je pense qu'aujourd'hui dans le football moderne, quand tu choisis cette organisation, et Amaury s'en félicitait, il faut absolument qu'il y ait une symbiose entre le directeur sportif et l'entraîneur. Et ça, pour le coup, ce sera le cas.
Bah, demande à Lille l'année dernière, demande au PSG cette saison.
On est d'accord. Donc voilà, on a parlé de Lille, de Marseille, de Paris.
Marseille, ouais.
Donc voilà, je pense que le plus important pour lui, c'est déjà qu'il a été sûrement choisi par le directeur sportif, qui est le nouvel homme fort de ce club, qui est une véritable légende de l'Olympique.
Mais moi, comme toi, comme Amaury, je suis, mais alors impatient d'être à la saison prochaine.
Mais bien sûr, mais tout le monde en est impatient. Mais le truc, c'est, on est impatient. Aussi pourquoi, parce qu'on part dans l'inconnu total. C'est l'inconnu total.
Ouais,
c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant.
Amaury.
Oui, j'aimerais juste rajouter un truc, c'est que faut quand même souligner une fois de plus le talent de Memphis Depay qui deux saisons consécutives nous envoie quand même en Ligue des Champions, parce que je sais qu'il a été beaucoup décrié dans les médias, mais moi franchement si j'avais un souhait pour le mercato, même c'est si je sais que lui il a des envies d'ailleurs.
Amaury, il a dit qu'il restait.
Un duo qui ferait du bien.
Ouais, et puis Amaury, moi je pense vraiment que bon, je le connais bien forcément, mais Memphis, j'ai entendu certains supporters lyonnais, je respecte leur avis, dire qu'il fallait qu'il s'en aille parce qu'il a pas respecté le club. C'est quelqu'un certes d'un peu atypique.
Non,
mais je sais, mais je t'ai entendu, mais c'est quelqu'un d'un peu atypique, ça c'est sûr. mais je peux vous dire, s'il arrivait à avoir le niveau qu'il a eu, ne serait-ce que sa dernière saison au PSV Eindhoven, ça peut être, et le niveau aussi qu'il a cette saison avec le, avec la sélection néerlandaise, c'est un joueur exceptionnel.
Mais le problème, c'est la régularité.
Mais non, mais il faut aussi qu'il ait un entraîneur. Il faut qu'il ait un entraîneur qui sache le manager.
Les gars, en fait, Nico, t'as totalement raison, mais Kevin aussi. Et parce qu'en fait, quand on regarde un peu plus en détail les moments de creux que Memphis a eu, parce qu'il a fait des matchs horribles avec
c'est vraiment des
moments où il était sur un côté avec des tâches un petit peu ingrates qui, à mon sens, ne correspondent pas vraiment à ses qualités. Je suis convaincu que c'est un joueur d'axe. L'année dernière, l'excellente période lyonnaise qu'il a, c'est quand il joue à deux devant avec Mariano, même si les deux se mettaient sur la gueule à chaque match. Au final, techniquement et en termes de résultats, ça marchait très bien. Et à chaque fois que je le vois jouer dans l'axe avec l'OL, je le trouve très bon. Et encore mieux si c'est dans l'axe avec un vrai numéro 9 devant lui. Donc je pense que l'entraîneur, le vrai défi de l'entraîneur qui arrive, de Silvinho, ça va être de maximiser le potentiel énorme de Memphis Depay.
Le vrai défi pour l'entraîneur qui va arriver, c'est de convaincre Memphis Depay de rester à l'Olympique Lyonnais.
Il a dit qu'il restait.
Oui, il a dit qu'il restait, puis avant il a dit qu'il était pas sûr et puis qu'on sait jamais. Enfin voilà, c'est rien n'est fait.
Moi je pense qu'il va rester. Très honnêtement,
moi, j'en sais rien. Mais
très honnêtement,
rien.
Lyon a les reins assez solides.
Ça dépendra des offres.
Non mais Lyon a les reins assez solides pour se permettre de refuser une belle offre.
Tiens, et justement, tiens, Valérie, notre community manager, vous pose la question sur le compte Twitter de l'After, supporter lyonnais. On vous invite à donner votre avis sur le tandem Juninho-Silvinho. L'adoubez-vous, oui ou non? Pour l'instant, vous êtes 74% à répondre. Oui, comme Amaury, vous êtes assez impatient. Tu voulais rajouter un truc pour finir, Amaury?
Non, franchement, je suis vraiment satisfait et impatient pour la prochaine saison. Et on va espérer que celle-ci gagne la Ligue Europa pour que ce soit plus facile pour le coach de préparer.
Ça change beaucoup de choses, Amaury, hein. Ça te change beaucoup de choses pour le mercato, pour la préparation, c'est fondamental.
Et Amaury, ne raccroche pas, on t'offre deux places de ciné pour aller voir Cold Blood Legacy, voilà, avec Jean Reno.
Ah, merci.
Un thriller.
Merci, continue comme ça.
Salut, à bientôt, Amaury.
Il y a quand même un truc sur cette nomination qui est, à mon sens, et tu vois, par rapport au sondage que Valérie a mis en ligne, c'est que, en fait, ce choix d'entraîneur novice, il passe. Pourquoi? C'est uniquement parce qu'il y a Juninho qui arrive avec, en fait. Le projet, c'est Juninho, c'est pas Pierre-Paul Jacques.
C'est ce que j'ai dit, c'est un package.
Ouais, mais c'est pas un package, c'est que c'est Juninho, c'est un mec, c'est une légende vivante à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il peut faire passer, là, il peut te recruter une pelletée de joueurs méconnus même, qui peuvent même être des chèvres, qui viennent du Brésil. Les gens seront contents parce que c'est Juninho. Et ça, c'est hyper important.
C'est pas Juninho qui va
recruter. C'est hyper important de susciter autant d'adhésions.
C'est pas Juninho qui va recruter. Juninho, il va pas recruter, non, c'est Florian Maurice qui va continuer de recruter, et Juninho, lui,
va donner l'impulsion,
il sera la figure de proue, il sera, voilà, la personne qui représente le mieux l'Olympique Lyonnais.
Tiens, et tout à l'heure, on évoquait également la victoire des Lyonnaises en finale de Ligue des Champions, cet après-midi, 4-1 face au Barça. Vous savez que la Coupe du Monde féminine approche, c'est dans 15 jours, vous pourrez la suivre sur RMC aussi. On vous offre des places, pour aller voir le match de préparation de l'équipe de France féminine, France-Thaïlande. Ce sera le samedi 25 mai à Orléans. Pour remporter vos places, vous allez sur le compte Twitter de l'After Foot, et puis vous pourrez gagner donc des entrée pour aller voir ce match au stade de la Source. Petit détour par le Parc des Princes. Morgane Maury est en train de suivre les festivités des Parisiens et qui se sont imposés ce soir 4-0 face à Dijon, qui reçoivent leur trophée de champion de France, Morgane.
Oui, le virage hôtel qui continue de danser, de chanter à la gloire de ses héros, Gigi Buffon, Neymar, qui ont soulevé le trophée ensemble. Et la plus belle image pour l'instant, selon moi, c'est Edinson Cavani avec le maillot de l'Uruguay autour de la taille, qui est allé prendre un immense drapeau à son effigie avec un visage guerrier et le soleil du drapeau l'Uruguay dans un coin. Et devant le virage Auteuil, il a agité de longues minutes ce drapeau en remerciement les supporters. Et je rappelle cette banderole qui a été une nouvelle fois déployée. Cavani, c'est de Paris. Une légende n'a pas de prix.
Et puisque tu parles de Cavani, son frère et agent s'est exprimé également en Italie. Alors il a indiqué que, je le cite, pour l'instant nous n'avons pas de nouvelles concernant l'avenir d'Edinson. La seule certitude, c'est qu'il a un contrat avec le Paris Saint-Germain pour une année supplémentaire. Voilà ce qu'il a déclaré.
Personnellement, il veut rester. C'est une question de vie privée. Rester au club, et faut qu'il le garde.
Voilà, sa petite India qui est née hier d'ailleurs, son troisième enfant. Je sais pas si vous avez vu les vidéos. Oui. Franchement, j'ai failli chialer. Je vous le dis. Ouais, c'est très émouvant.
C'est un peu bizarre. Non, mais quand on connaît son histoire familiale, c'est cool pour lui. Voilà. C'est qu'il a été très affecté par le fait de pas avoir ses enfants. Je te dis pas que d'avoir un nouvel enfant, ça remplace les autres, mais ça fait plaisir pour lui.
Dans quelques instants, on va analyser la victoire de Saint-Etienne. Victoire 3-0 face à Nice. Les Stéphanois qui seront quatrième à l'issue de cette saison de Ligue 1. Derrière, les Lyonnais, supporters des Verts. On vous attend au 32-16. Jean-Louis Gasset est annoncé partant. On attend vos réactions, supporters stéphanois, tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Kevin Diaz et de Jonathan McCarty, 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.
Régaleur.
Vous l'avez suivi avec nous ce soir sur RMC. Dans quelques secondes, on va parler de la victoire de Saint-Etienne 3-0 face à Nice. Lille s'est imposée 5-0 face à Angers. Victoire de Lyon 4-0 face à Caen. 1 partout entre Montpellier et Nantes. Victoire de Reims 1-0 à Bordeaux. 6e défaite de suite pour les Girondins. Marseille est allé gagner 5-2 à Toulouse. Le Paris Saint-Germain. Voilà, pardon. Victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face à Dijon. Monaco, match très important. Important pour le maintien, s'impose 2-0 face à Amiens. Même score pour Rennes à Strasbourg. Et puis match nul 2-2 entre Guingamp et Nîmes. Au classement, le PSG champion, on le savait. Lille terminera 2e, c'est officiel. Lyon terminera 3e, c'est officiel. Et Saint-Etienne terminera 4e, c'est officiel aussi.
Saint-Etienne, c'est moi Saint-Etienne. Ils font une belle saison, mais putain, désolé. Vulgaire, mais j'ai des sacrés regrets par rapport
à. T'as des regrets pour Saint-Etienne?
Ah, j'ai un très 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 gros regret. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de matchs en début de saison où ça fait match nul. Je pense à un match contre Nîmes où ça fait une défaite 1-0. Et où, pendant tout ce temps-là, Loris Johnny était sur le terrain et Robert Berić mis au placard. Quand tu vois la fin de saison, enfin, depuis qu'il joue, l'amélioration des résultats Saint-Etienne et le nombre de buts que Robert Berić a mis, j'ai quand même des gros regrets sur le fait que Berić n'ait pas eu sa chance plus tôt dans la saison, parce que les petits points qui manquent pour accrocher la Ligue des Champions, je pense qu'il les aurait eu. C'est ça le regret que j'ai. Parce que vraiment, parfois, avec Johnny, il jouait vraiment à 10. Même pas à 10, même à 9, tellement il faisait des cagades.
Bon, déjà, t'es dur avec Johnny, mais.
Ah, bah, demande au supporter stéphanois. Le mec a été horrible.
Bon, d'accord, mais tu peux pas dire que t'es déçu. Ce club,
Non, c'est un petit regret quand même, Kevin, quand tu vois les performances de Robert Berić quand même.
Attends, après, faut replacer les choses dans leur contexte, Jonathan. Si Saint-Etienne est quatrième, c'est parce qu'ils l'ont mérité, largement mérité.
Bien sûr.
Ce club qui, pour moi, est un très grand club français. Hein, on le sait. Il y a l'histoire. Le public, il y a tout ce qu'il faut. Mais s'ils sont là, c'est aussi à cause de la défaillance de Marseille. Faut dire ce qui est. Quatrième au classement, il y a la défaillance de Marseille,
la défaillance de Monaco
aussi. Voire même des clubs comme Bordeaux.
Regarde, c'est pas ce que je te dis.
Pour moi, c'est une saison exceptionnelle pour les Verts.
Encore une fois,
je les félicite.
Il y a encore 2-3 journées, ils auraient pu aller chercher. D'ailleurs, ils titillaient cette place qualificative pour la Ligue.
Là, tu veux
parce que Lyon a fait enrayer.
La cabine, tu veux en même temps. C'est pas du tout. Moi, ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'ils ont pas fait une belle saison. Elle est géniale leur saison. J'ai dit juste que j'ai un petit point de regret parce que il y a trois quatre matchs, même si ce n'est plus, on les a fait là, hein. Franchement, les matchs du samedi ou les matchs du vendredi, où franchement Saint-Etienne avec un mec en jouant à 11 et pas à 10, parce que je considère que je joue à 10 avec Johnny, ils auraient pu avoir plus de points, c'est tout.
J'ai bien compris que c'est pas péjoratif ce que tu dis, au contraire. Je disais juste que les Stéphanois doivent juste apprécier ce moment, en profiter, pas penser à Lyon, parce que Lyon, ils sont quand même, que ce soit au niveau du budget, au niveau de la qualité des joueurs, un peu au-dessus quand même. Et donc, ce qu'a fait Saint-Etienne, c'est très bien, qui n'est pas de regret et qui profite.
Les gars, on va accueillir Timothée Mémon qui nous a fait vivre ce match, cette victoire de Saint-Etienne 3-0 face à Nice ce soir. L'une des infos de la soirée avant le match, on a appris que Jean-Louis Gasset était sur les départs. Rebonsoir Timothée, t'as assisté à la conf de presse de Jean-Louis Gasset. Qu'en est-il Timothée?
Oui, absolument. Rebonsoir. Alors, on a assisté à cette conférence de presse de Jean-Louis Gasset. On a clairement mis les pieds dans le plat. Au début, il a voulu parler du match et puis on l'a relancé une fois, deux fois, trois fois. Il a fini par répondre et il nous a expliqué qu'il avait vu ses présidents cette semaine, qu'ils avaient fait du virtuel en imaginant si Saint-Etienne finissait cinquième, en imaginant si Saint-Etienne finissait quatrième. Et Jean-Louis Gasset a expliqué qu'il se sentait certes fatigué, mais qu'il avait surtout besoin, en cas d'Europe, de garanties. Et clairement, il a lié son avenir aux garanties que pourrait lui donner l'AS Saint-Etienne, ses dirigeants, pour avoir un effectif suffisamment riche pour jouer l'Europa League et pour bien y figurer, pour ne pas se ridiculiser dans cette compétition. Cette année, il avait choisi un effectif restreint. Là, il aura besoin d'un effectif plus large et qualitativement plus important. Il a donc lié son avenir à cette chose-là. Toujours est-il que les informations d'avant-match que l'on avait, c'était une tendance au départ. Il y a quelque chose, c'est une analyse qui m'est propre, mais je pense que Jean-Louis Gasset l'expliquera dans les jours qui viennent. Il y a quelque chose qui vient de changer la donne. C'est ce qui s'est passé ce soir à Geoffroy Guichard. Le stade était plein, une ambiance incroyable, une communion de folie.
C'était génial.
De la rencontre. C'était absolument génial. Et Jean-Louis Gasset, c'est quelqu'un d'humain et c'est quelqu'un qui est touché par ça. Et il a fini en expliquant que oui, peut-être qu'il avait envie de continuer, mais peut-être qu'il était aussi très fatigué, peut-être qu'il avait besoin de dormir, peut-être qu'il n'avait plus l'envie d'entraîner, que ce soit Saint-Etienne ou une autre équipe. Mais il a ajouté, quand on voit une région, une ville comme ça et des gens qui vous aiment, forcément, ça vous fait vous poser des questions. Et il a ajouté qu'il lui faudrait quelques nuits de sommeil avant de prendre sa décision. Ah. Donc clairement, il va y avoir d'un côté les garanties financières et les garanties de recrutement que pourront donner les présidents. Mais on va dire que pour ce qui est de l'affect, Geoffroy Guichard a peut-être mis un petit plus dans la colonne des points positifs à l'idée de rester à la Saint-Etienne pour Jean-Louis Gasset.
Donc toi tu crois à un maintien de Jean-Louis Gasset, à une continuité de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne?
Je dis pas que j'y crois.
C'est une intuition, quoi. C'est ce que
plus,
tu sens, quoi.
J'y crois, exactement. J'y crois beaucoup plus après sa conférence de presse que je n'y croyais avant le début de la rencontre et même depuis les dernières semaines. Parce qu'il y a des dissensions entre Roland Romeyer et Ghislain Printemps, entre Roland Romeyer et Jean-Louis Gasset. Les rapports sont pas toujours faciles. Il a dit, la réunion de la semaine dernière nous a permis de mettre les choses à plat. On doit se revoir cette semaine pour décider définitivement, puisque la quatrième place est assurée, pour décider définitivement de l'avenir. Il aura besoin de garanties, il aura besoin qu'on lui donne une équipe. Pour vous donner un exemple, et c'était un peu du hop, mais voilà, c'est aussi des informations qu'on glane. Jean-Louis Gasset, il avait déjà parlé de besoin de joueurs en vue de la saison prochaine. Et Roland Romeyer lui avait répondu, Berich, ce sera en Coupe d'Europe le Cavani de Saint-Etienne. Il peut pas se contenter de ça. Il peut pas se contenter.
Et puis,
Robert
Berich
a été très bon aujourd'hui, mais Jean-Louis Gasset pourra pas se contenter de ça pour jouer l'Europe l'année prochaine. Donc il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un recrutement à la hauteur de l'Europe. Mmh. Et c'est peut-être là où le pari peut nous laisser un peu.
En tout cas, Timothée, on peut aussi penser que Jean-Louis Gasset veut partir sur une bonne note. Et on sait aussi que pour les clubs français, alors c'est un peu malheureux, mais pour les clubs français, ceux qui sont qualifiés en Europa League les clubs du calibre de Saint-Etienne, souvent, malheureusement, ils vivent des saisons difficiles derrière en championnat. Et donc, comme tu dis, on sait que c'est pas un club qui a forcément une capacité financière à recruter des joueurs qui vont lui permettre justement de passer ce cap, donc ça va être quand même difficile.
Tiens, je vous coupe les gars, on va écouter Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas en direct en zone mixte après la victoire de l'OL ce soir 4-0 face à Caen.
La Champions League avec Alexander Seferin hier soir, qui a participé à toute la préparation des filles. Bon, je les ai quittées après avoir animé avec Gérald la causerie. Bon, Gérard Rouillet a su aussi se substituer, ce qui prouve qu'il y a une bonne équipe qui est interchangeable. Et puis ce soir, c'était un dilemme de savoir comment j'allais organiser ma journée. Et je suis un président comblé. Je suis un président comblé parce que Lyon se qualifie pour la 23e fois consécutive en Coupe d'Europe. Je crois que c'est unique. Et à l'intérieur de ces 23 qualifications, il y en a 18 en Champions League. Rendez-vous compte, c'est de très très loin devant les autres clubs. Ouais. Et je suis aussi heureux parce que Bruno a démontré qu'en fait, il y avait une formidable injustice qui s'était produite. J'assume parce que j'aurais voulu vraiment qu'il reste. Et je voudrais aussi vous dire de manière tout à fait confirmée que Juninho va nous rejoindre. Ça fait 3 semaines que je travaille sur ce sujet de manière confidentielle. C'est pour ça que les choses n'étaient pas trop sorties. Et c'était important pour pouvoir réussir que ça soit confidentiel. Donc quelquefois, on ne peut pas tout vous dire, mais c'est pas pour vous embêter. C'est uniquement parce qu'on veut réussir quelque chose de formidable. Donc Juninho va nous rejoindre. Il va arriver incessamment. Il est d'accord. Il va venir comme directeur sportif. Il a préparé ces dernières années son diplôme de manager de l'UEFA qui lui permet d'être directeur sportif, d'être manager avec la quasi-totalité des responsabilités sportives, ce qui va me faire un petit peu de bien. Il faut le concéder. Et puis donc il vient avec Silvinho, donc qui a été libéré hier. J'avais pas prévu de vous en parler ce soir, mais bon, puisque vous êtes tous là et que la CBF a accepté de libérer Silvio, eh bien on va l'accueillir à bras ouverts. C'est Juninho qui l'a choisi. Alors j'ai entendu qu'effectivement il n'avait pas une longue expérience en tant que entraîneur en premier, mais bon, sans vouloir comparer Silvinho à Zidane, on a vu que de très grands joueurs pouvaient très vite s'inscrire dans des projets ambitieux. On a un projet ambitieux et il va venir aussi Silvio, vous le savez pas encore, mais avec un autre des adjoints de la Seleção qui va s'occuper de tout l'aspect statistique et l'aspect vidéo. Donc on aura une base solide, novatrice, mais aussi on va essayer de garder le maximum de l'équipe qui a réussi ce qu'elle a réussi ce soir. Donc voilà, donc le projet qui était très complexe à réaliser va se mettre sur pied. on va donner des moyens à ces garçons qui arrivent. On va tirer un grand coup de chapeau aussi à Bruno, qui a réalisé ce que peut-être personne d'autre que lui aurait réalisé cette année, parce que les vents contraires étaient quelquefois importants, et j'avoue que je m'en veux de pas avoir réussi à résister, mais j'ai fait le maximum. Et Bruno va partir sur une qualification qui est merveilleuse, et voilà, donc sixième Coupe d'Europe pour les filles contre le Barça, avec une démonstration de qualité de jeu. Et puis, c'est vrai, 8 finales sur 10 de Champions League pour les filles sur les 10 dernières années. Donc voilà, donc je suis très très heureux de pouvoir le partager avec vous, parce que le foot, c'est un moment de passion. C'est pas uniquement des réussites macroéconomiques ou économiques, même si ça y participe. Excuse quelquefois de parler d'EBITDA, mais sans EBITDA, vous pouvez pas faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de construire un Noël qui pourra rivaliser.
Voilà, Jean-Michel Aulas en direct en zone mixte, et donc qui a confirmé l'arrivée du duo, donc Joninho-Silvinho. Voilà.
C'est les bisounours, hein, le mec. Hein. Non mais il faut se rendre compte de la manière dont il essaye dont il essaye de nous enfumer. Alors Bruno Genesio, formidable. C'est quand même, je suis déçu qu'il ait vécu cette injustice-là. Et mon coco, qui a créé l'injustice, qui a créé le feuilleton?
Président.
Le feuilleton autour du départ ou du maintien de Genesio, c'est lui. Alors qu'il arrive comme ça, avec la tête enfarinée, en disant « Oui, les gars, je suis très déçu de l'injustice qu'a subi Bruno. » Ça déjà, arrête. Après, ce que t'as dit, on avait les micros coupés, mais Nico, mais c'est très juste. La pression qu'il met sur Silvinho déjà.
La comparaison... au-delà de la pression de la comparaison, mais c'est que Zizou, il a été entraîneur de la Castilla en tant que principal. Il a été aussi directeur sportif au Real Madrid avant de...
Franchement, les gars, c'est pas
rien
trop
à voir.
Non, c'est de la com.
Non, honnêtement, c'est pas trop important. Tu sais ce qu'on va dire, Kevin, c'est que moi, je suis content que Jean-Michel Aulas prennent un pas en retrait.
C'est quoi, Kevin?
L'année prochaine.
Ouais. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est pas très important. Et Silvinho, c'est pas ça qui va lui faire peur. Ça a été un grand professionnel. Je pense qu'aujourd'hui.
Non, c'est pas ça, t'as raison. Mais ce qui est important, là, quand même. Ce qui est important, c'est, là, d'ores et déjà, c'est l'impression, la communication que le club va avoir vis-à-vis des supporters et du paysage médiatique. Et je pense que si, en tant que président, tu dis oui, on n'a jamais d'entraîneur, ça peut faire comme Zidane, vis-à-vis des médias, à la première défaite, ça va, et on va lui ressortir.
Moi, tu vas se reprendre en pleine gueule. Tu sais ce que j'aimerais que Silvinho et Juninho disent en arrivant, dès la première conférence de presse?
Que Lyon joue le titre?
Nous, on est là pour gagner le titre de champion de France. C'est ça que j'aimerais entendre.
Faut arrêter avec ce discours de,
faut qu'on soit troisième, et bravo Bruno d'être troisième. Bravo Bruno, rien du tout. T'es à 20 points du Paris Saint-Germain, et à bravo Bruno, rien du tout. Merci Bruno, ça, y a pas de souci. Merci Bruno pour le travail effectué.
Désolé Bruno d'avoir si mal géré.
Ça, oui. Maintenant, il y a une chose qui est importante dans ce qu'il a dit, c'est qu'il confirme quand même si on le savait, il le confirme officiellement, que c'est Juninho qui a choisi Silvinho, et ça, pour moi, c'est la meilleure info pour les Lyonnais.
Et aussi le fait qu'il est bien précisé, qu'il peut aller prendre un pas en retrait vis-à-vis de la gestion sportive de l'équipe première.
Ça aussi, c'est bien.
Ça, c'est...
On referme la parenthèse, Lionel. Merci, président Jean-Michel Aulas. On va accueillir Renaud, supporter des Verts, puisqu'on parlait de l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui terminera quatrième à l'issue de cette saison de Ligue 1. Salut, Renaud.
Salut, tout le monde.
Salut, Renaud.
Salut.
Bon, Renaud, est-ce que t'es content de cette saison?
Ouais, bien sûr. Là, j'étais au stade, là, du coup, et puis voilà, on conclut une belle saison en beauté ce soir, et forcément, bon, je pense qu'on n'était pas nombreux à espérer une quatrième place comme ça, donc.
Est-ce que t'es un peu déçu comme Jonathan?
Un peu déçu. Mais en fait, Kevin, t'es un salopard, parce que j'ai jamais dit le mot déçu. J'ai dit, j'ai un petit regret. Ce qui est totalement différent d'avoir un regret et d'être déçu.
Alors, sémantiquement, c'est très différent. Alors, du coup, Renaud, est-ce que tu as un petit regret?
Je le disais par rapport à Berry chez Johnny, en début de saison.
Après...
T'aurais signé tout de suite.
Oui, bien sûr, parce qu'on fait avec les moyens du bord, du coup, mais...
J'ai jamais dit le contraire. En fait, t'es un emmerdeur, toi, hein, parce que tu détournes les propos des gens, et en plus, t'essayes de...
Et toi, en revanche, c'est-à-dire, on te tend la perche, tu la prends, tu la mets dans la bouche, tu la mets partout, en fait.
Tu sais que j'aime bien faire ça, en général. C'est toi qui m'as pris.
Vas-y.
Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que... Si on veut quand même bien figurer l'année prochaine en Ligue Europa, il va falloir quand même investir avec les moyens que l'on aura. Mais on va essayer quand même de faire un bon parcours l'année prochaine. Et puis, peut aussi un peu compter avec les jeunes du centre de formation.
Qui sont très bons.
Là, il y en a deux, trois qui sont, bon,
Ben Kedim, Chibou Abua.
Ouais.
Voilà, non, mais bien sûr, et puis Renaud, je taquine un peu Jonathan, mais encore une fois, félicitations aux joueurs. Mais vraiment, et je le pense, parce que moi, quand j'étais joueur, vraiment, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Félicitations à ce public. Mais quelle ambiance. Et je suis sûr que rien que pour ça, il y a des joueurs, moi j'en aurais fait partie, qui auraient aimé signer à Saint-Etienne.
Et d'ailleurs,
parce que cette ambiance, ce stade, ce chaudron, c'est un stade qui a jamais aussi bien porté son nom. Magnifique. Bravo.
C'est ce que je disais à mon ami, là, ce soir dans le stade, je lui disais, mais là, les joueurs dans le microcosme, ils doivent se dire quand même, mais viens à Saint-Etienne, parce que tu vois pas beaucoup... ce genre d'ambiance dans beaucoup de stades en France. Et là, ce soir, j'en ai encore des frissons tellement que c'était énorme, quoi. Donc,
T'as peut-être entendu Timothée Mémon, le correspondant à Saint-Etienne, mais il le disait lui-même, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va peut-être convaincre Gasset de rester ou pas, mais il l'a senti touché, du moins par l'ambiance ce soir encore de Geoffroy Guichard.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que Jean-Louis, il est quand même super heureux à Saint-Etienne. Et puis bon, il voit quand même ce public magnifique. Et lui, j'espère que voilà, j'ai entendu du coup qu'il risquait peut-être de partir. Ben,
il a peut-être resté.
J'espère que au fin fond de lui, il va se dire non, je peux pas lâcher tout ce monde-là, je peux pas lâcher le peuple vert. Et puis j'espère qu'il va rester parce que en plus, il fait vraiment du super boulot.
Ça peut être aussi une forme d'honnêteté de sa part, c'est ce que je disais.
Ouais, c'est clair.
Tu vois, s'il pense vraiment que peut-être sa situation familiale ou sa situation personnelle ne vont pas lui permettre d'être de façon optimale avec un si grand club comme le vôtre et avec des supporters aussi dévoués, ça peut être aussi une question d'honnêteté.
Il y a un truc qu'on n'a pas forcément souligné assez, je trouve, c'est quelque chose qu'il a très bien fait Jean-Luc Gasset avec Augustin Printemps cette année, c'est avoir participé à l'éclosion de jeunes talentueux comme William Saliba, comme Arnaud Nordin. T'as une équipe de jeunes qui a gagné la Gambardella avec une génération qui est exceptionnelle, Chibou Abua, Kenny Rocha Santos, Belkedim, t'as des très bons joueurs, et j'espère que l'entraîneur qui sera en poste l'année prochaine, que ce soit Jean-Louis Gasset ou un autre, arrivera à en tirer parti.
Merci à Renaud d'avoir été avec nous, super. Une petite info pour terminer. Alors vous savez que Flo Germain, vous avez annoncé ces dernières semaines que la situation de Rudy Garcia devenait intenable. Alors le JDD ce soir annonce, alors au conditionnel pour l'instant, que Garcia devrait partir et qui pourrait partir d'ailleurs dès lundi. Voilà, et quitterait l'Olympique de Marseille dès lundi. Sachez que l'agence bosse déjà sur le dossier. Voilà, Flo Germain et toute la team également. Demain on reviendra là-dessus bien entendu dans l'after. After de 3h demain d'ailleurs. On sera là à partir de 21h jusqu'à minuit. On sera notamment avec David Lortolari, avec Julien Laurence, on sera avec Fred Hermel, on sera avec Alex De Castro pour le Portugal, le Benfica qui a été sacré champion ce soir aussi. Et puis on viendra également sur la course au maintien qui là pour le coup est pas du tout plié encore en Ligue 1. Je vous rappelle les résultats de ce soir, de cette avant-dernière journée de Ligue 1, 2-2 entre Guingamp et Nîmes, victoire 2-0 de Rennes à Strasbourg, victoire 2-0 de Monaco contre Amiens, le PSG s'impose 4-0 face à Dijon, Marseille gagne 5-2 à Toulouse, victoire de Reims 1-0 à Bordeaux, 1 partout entre Montpellier et Nantes, Lyon s'impose 4-0 face à Caen, Lille gagne 5-0 face à Angers, Saint-Etienne bat Nice 3-0 et du coup le PSG sera premier, Lille sera deuxième, Lyon sera troisième, Saint-Etienne sera quatrième. On connaît les Européens à une journée de la fin. En revanche, pour le maintien, Guingamp relégué, on le savait, 19e avant-dernier pour l'instant, relégable Dijon, barragiste Caen avec 2 points d'avance sur Dijon, Amiens qui est 17e avec 2 points d'avance sur Caen, et puis Monaco, faudra un cataclysme pour que Monaco descende. Monaco qui compte 3 points d'avance sur Caen, mais ils ont une bien meilleure différence de but, les Monégas.
Ça pourra jouer à un but à la différence de but entre Caen et Amiens.
Oui, exactement. Merci beaucoup Kevin Diaz.
Merci à vous.
Merci Jonathan McCarthy. Vous avez été insupportable ce soir chez Sacha.
Ah si. Mais en fait c'est parce qu'il requit sa carrière et pas dans l'équipe type de la Ligue 1, c'est pour ça
c'est
ça m'énerve.
N'importe quoi. Allez, bonne nuit, vous m'avez saoulé. Non, je déconne, je vous aime.
Salut les gars, salut Kevin, salut Nico.
Salut.
RMC, l'After Foot.